Bonjour à tous, c'est l'heure de notre émission spéciale correspondance présentée par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Meïa, bonjour à tous. Avec une belle émission aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'accueillir, et nous les attendons d'un instant à l'autre, Alice Zeniter qui va nous parler de Sombre Dimanche, puis également Yannick Hennel qui nous parlera de son dernier roman Les Renards Pâles. Véronique Ovaldé sera également avec nous et nous évoquerons La Grâce des Brigands, son dernier roman. Nous évoquerons aussi Les souvenirs d'enfance d'un manosquin bien connu et qui a écrit un livre étonnant. Marcel Cartman sera à nos côtés pour dire de quoi il se souvient. Bonne émission à tous. Et on commence tout de suite cette émission en direct des correspondances. Je vous rappelle que les correspondances de Manosque, c'est du 25 jusqu'au 29 septembre 2013. Et c'est partout dans Manosque. Eh bien, je vous propose d'écouter le directeur des correspondances, Olivier Chaudançon, parler du programme de ce beau week-end qui s'annonce tout en correspondance à Manosque.
Olivier Chaudançon, le week-end s'annonce animé pour ces 15e correspondances.
En effet, il va y avoir beaucoup de choses, donc je vais vous faire une petite sélection. Et puis ensuite, je vous inviterai à vous promener dans les rues de Manosque et le programme en main pour avoir le détail. Mais dès samedi, l'apéro littéraire traditionnel recevra Thomas Clair et Thomas Reverdy. On pourra suivre le groupe des lecteurs manosquins qui se lance cette année dans la lecture de Candide. Et puis toujours en matinée, une rencontre à la Fondation Carzou, où là, deux auteurs qui ont travaillé sur l'histoire, Hugo Boris et Raphaël Jérusalemi, nous présenteront leur ouvrage. Quand je dis histoire, c'est pas des romans académiques, hein, attention, c'est vraiment une façon très très vivante d'évoquer l'histoire. Et puis dans l'après-midi, on retrouve François Beaune, que l'on connaît bien, et qui nous fera part de son périple autour de la Méditerranée, où il a collecté des histoires vraies pendant plus d'un an. D'ailleurs, il y aura d'une part une rencontre avec lui, et d'autre part une lecture mise en voix dans la foulée, un peu plus tard dans l'après-midi. Une rencontre avec Yannick Hennel et Philippe Vassé, qui tous deux ont écrit un ouvrage qui ausculte nos villes d'aujourd'hui, et la vie qui s'y passe à ses marges, je dirais. Comment la pauvreté dans des villes riches ou aux apparences riches génère des tensions et puis un regard sur cette société d'aujourd'hui par deux grands auteurs. Une rencontre avec Sandra Lucbert et Dominique Paravel, deux livres à découvrir. C'est des noms qu'on ne connaît pas encore, mais c'est des gens qui sont en pleine émergence. Et ça fait partie aussi du rôle des correspondances que de présenter les nouveaux auteurs. Marie Dariussec, je ne la présente pas, magnifique livre. Je pense que c'est un de ses ouvrages les plus intéressants. Une performance, comme on dit, avec Alban Lefranc et le comédien Julien Lacroix. En fin d'après-midi, Dany Laferrière, extraordinaire auteur et conteur qui sait si bien parler de ses livres. Thomas Clair, personnage singulier puisqu'il a fait un livre extraordinaire qui s'appelle Intérieur, où il se propose de présenter dans le détail son appartement. Alors ça peut rebuter comme ça, moi j'ai trouvé ça tout simplement extraordinaire et lumineux. Une rencontre avec Gaël Obiegli, lecture musicale, étrange objet. Et puis en soirée du samedi, un plateau magnifique au Théâtre Jean le Bleu, puisque Yasmine Areza viendra lire son propre texte, Heureux les heureux, mais comme c'est un texte à plusieurs voix, il lui fallait des compagnons, et elle a choisi comme compagnon de lecture Édouard Baer et Josiane Stoléru. Et puis fin de soirée musicale, Bertrand Belin. Un de nos chouchous, je dois l'avouer, et il est venu un certain nombre de fois, mais il vaut vraiment le coup. Son dernier album est sublime, comme ses précédents d'ailleurs. Pour autant, il n'est pas là pour faire son concert, il est là pour faire un concert littéraire. Donc il a choisi de croiser ses chansons avec les textes d'un très grand poète, Christophe Tarkos, marseillais, disparu très jeune, à l'âge de 40 ans, il y a une dizaine d'années. Je pense que ça va être une très belle création des correspondances.
À découvrir donc avec Bertrand Belin en soirée du samedi. Et puis dimanche, là aussi, la journée est plutôt alléchante.
Ah, toujours pas de temps à perdre, alors avec une rencontre qui réunit Sophie Maurer et Thomas Reverdy. Un des grands livres de la rentrée, Thomas Reverdy, ça s'appelle « Les évaporés ». Et ça nous parle notamment de ces gens au Japon qui décident un jour de disparaître. Et là, la société le prend en compte, puisqu'il y a une sorte d'autorisation administrative de disparaître. Et on peut changer d'identité, changer de papier, sans rendre de compte à qui que ce soit. C'est assez fascinant. Une rencontre avec... Chloé Cormand, Alice Zéniter aussi en début d'après-midi, Alice Zéniter qui a écrit Sombre Dimanche, un magnifique livre qui se passe à Budapest, une jeune auteure vraiment très talentueuse, elle a eu le prix Inter d'ailleurs pour ce livre, et puis on aura l'occasion de bien la connaître à Manosque puisqu'elle sera en résidence à partir de cet automne. Céline Minard également, là aussi ça fait partie de mes coups de cœur personnels de la rentrée, son livre s'appelle Faillir être flingué. Titre singulier, et c'est un western inventé à la façon de Céline Minard, où l'on sent tout, où l'on voit tout, où on imagine les personnages, c'est absolument fascinant. Une rencontre avec un auteur portugais, Walter Hugo Maé, très beau livre aussi, dans la lignée d'écriture de Antonio Lobo Antunes, pour ceux qui connaissent, ça vaut vraiment le détour. Marie Richeux, qui sera accompagnée d'un musicien, Sylvain Chauveau. Et puis les rencontres Lire dans le noir, que l'on suit régulièrement. Et Aurélie Kiffer recevra Philippe Vasset et Julien Delmer. Dernière lecture du festival. Je pense qu'elle sera magnifique parce que, d'une part, le comédien est magnifique, Michel Lescaut. On l'avait vu il y a 2 ans, je crois, lorsque nous avions donné la correspondance de Gaston Gallimard avec ses auteurs principaux. Michel Lescaut avait été très, très bon, je trouve, et on avait vraiment envie de continuer à travailler avec lui. Il viendra lire une magnifique correspondance, celle de l'auteur suisse Robert Walser. Une correspondance drôle, singulière, poétique. Voilà, ça c'est un auteur un peu souterrain, mais qui, depuis quelques années, commence à devenir un auteur culte, Robert Walser. Vraiment, je vous conseille cette lecture qui sera la clôture des 15e correspondances.
Et vous allez vous préparer pour les 16e. Merci beaucoup, Olivier.
the deep of my heart, dear. Darling, I hope that my dream never haunted you. My heart is telling you how much I wanted you. Gloomy Sunday.
La voix sublime de Billie Holiday, une mélodie d'outre-tombe pour introduire Sombre dimanche d'Alice Zeniter, prix Inter et publié chez Albin Michel. Bonjour Alice Zeniter.
Bonjour.
Quelques mots d'abord sur cette chanson que certains disent maudite car elle pousserait au suicide. Écrite par Rezo Cérès en 1933, cette mélodie mélancolique fut interdite de radio et la version de 1941 de Billie Holiday connut comme d'autres ce triste sort. Le compositeur se suicidera lui-même en 1968. Elle garde un pouvoir nostalgique et émotif très puissant, même si l'histoire des suicides est, paraît-il, exagérée. Alice Zeniter, une relation entre cette chanson et votre titre, voire votre roman?
Oui, bien sûr, puisque le roman s'ouvre en fait sur le personnage du grand-père qui chante cette chanson complètement ivre, et on apprend très vite qu'en fait, une fois par an, à chaque fois à la même date, il prend une cuite à la palinka, il chante cette chanson, il s'effondre dans le jardin, mais il refuse d'expliquer pourquoi, et ça fait partie des secrets de la famille Mundy, le rapport du grand-père à cette chanson qu'il déteste, et que pourtant il s'entête à chanter tous les 2 mai.
Comme vous le dites, c'est une mélodie que psalmodie le grand-père de la famille dans laquelle on plonge dans votre roman, et tout en traversant l'histoire récente de la Hongrie, en fait, même si le personnage est Imre, c'est un jeune garçon qu'on accompagne tout au long de sa vie, le livre est construit autour de ce grand-père acariâtre, en fait. Sa vie, ses secrets, ses ressentiments, son amour pour sa femme, Sarah, ses filles, et le rapport compliqué avec son fils, Pal, dont on apprendra pourquoi il ne s'appelle pas Imre, comme tous les garçons de la famille. C'est une saga familiale.
Oui. Alors, je dirais pas que le roman est construit autour du grand-père. Il est construit à la fois autour des 3 générations de cette famille. Donc Imre, Pal et le grand-père qui s'appelle Imre également. Et j'avais en fait envie, voilà, de pouvoir avoir un angle d'attaque pour parler de la Hongrie, pour parler des gens, pour parler de l'humain, qui soit plus large qu'une personne et qui soit plus large qu'un âge. Du coup, en prenant 3 générations, je pouvais me permettre de balayer tout le XXe siècle et d'avoir des rapports à la vie qui soient très différents et qui se rencontrent et qui ont du mal à communiquer. Il y a des gros problèmes de communication d'une génération à l'autre dans cette famille, mais qui enrichissent, voilà, le livre de vie diverses.
C'est aussi, votre livre, Sombre dimanche, un tableau social et historique de la Hongrie du XXe siècle. Le pays n'y est pas franchement à son avantage. Je vais vous lire un extrait, vous allez vite comprendre, chers amis auditeurs. C'est le chapitre de La femme des bains, et ça commence ainsi. Le 27 juillet 1986, Queen donnait un concert à Budapest. C'était la première fois qu'un groupe occidental venait jouer en Europe de l'Est depuis 1965, l'année de la venue de Louis Armstrong. C'est trop gentil de la part de l'Amérique. Nous envoyer un nègre et un PD, merci bien, disait à la radio un notable communiste raciste et homophobe. Pays de merde, grommela Imre en quittant la table de cuisine. Idilko sursauta. En plus, ils sont anglais, pas américains.
Oui.
On a tout là, on a tout. L'homophobie, le rejet de l'Occident, on a beaucoup de choses.
Oui, mais alors je dirais pas, je dirais pas que le roman présente la Hongrie sous un jour désavantageux. Il présente la Hongrie, c'est ce qu'elle est. Enfin, je veux dire, on va pas faire semblant que c'est un problème qui n'existe pas. Après, il y a des passages qui sont beaucoup plus tendres, on va dire, et beaucoup plus affectueux envers ce pays que j'aime beaucoup. Mais oui, il y a un problème. Et le, je veux dire, la guerre froide n'a pas du tout aidé les gens à accepter le rock des chanteurs homosexuels au moment des années 80. Enfin, c'était vu comme une sorte de dégénérescence capitaliste. Et donc j'avais envie de parler de ça aussi.
Et on peut peut-être même dire jusqu'à l'heure actuelle, mais on verra ça peut-être un petit peu plus tard. On plonge dans votre livre, dans l'insurrection d'octobre 56 contre les Russes, puis l'ouverture, l'arrivée brutale de la société de consommation, vraiment brutale. Il y a aussi les histoires d'amour, celles des parents, prudes et réservées, plus abruptes pour les enfants et même dramatiques pour la sœur d'Imré, qui vivra prostrée après une liaison étrange. Lui-même vivra avec une Allemande, une histoire merveilleuse, puis difficile, qui finira par le départ de celle-ci et de leur enfant, mais à la fin ils trouveront la paix dans une modeste cabane au bord d'un lac, dans une nature apaisante. C'est assez bien résumé ?
Oui, mais vous avez dit la fin du coup.
Il y a évidemment tout un cheminement avant d'arriver à cet apaisement particulier, et bien sûr on plonge dans des rapports humains particuliers, que ce soit le couple et intrafamilial aussi, hein, vous l'avez dit, entre les générations des hommes. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre vers la Hongrie? Vous avez une affinité particulière avec ce pays, une histoire?
J'y ai vécu pendant quasiment 3 ans, et il y a quelque chose, je sais pas, ce pays me fascine parce que je pense qu'il est le contraire du fascinant à la base. C'est un pays qui est tout petit, qui est tout plat, qui a perdu les 2/3 de son territoire au moment du traité de Trianon, et donc en fait qui a perdu un peu toutes les parties intéressantes, qui a perdu les grandes montagnes des Carpates, qui a perdu ses châteaux médiévaux, et qui est juste, voilà, maintenant une sorte de petit croupion traversé par le grand Danube gris. Et il y a une tristesse, une mélancolie qui exsude de ce pays que je trouve fascinante. C'est aussi un pays qui a une poésie absolument merveilleuse et une histoire difficile, une histoire répétée d'invasions et de problèmes. Donc les Hongrois ont un rapport avec leur histoire qui est assez compliqué. Ils se voient comme des victimes permanentes. Ils ont l'impression que le monde entier les déteste et demande qu'à leur tomber sur la gueule tous les 10 ans ou tous les 20 ans. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment fascinée et dont j'avais envie de parler parce que j'ai pensé que les lecteurs français connaissaient peut-être pas cette atmosphère et qu'elle était propice à un roman. Et donc voilà.
L'atmosphère, on peut à la rigueur la sentir à l'intérieur de la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, mais le pays lui-même, effectivement, les Français ne le connaissent pas. Donc il y a un côté aussi didactique dans votre livre qui nous permet d'apprendre un peu de l'histoire de l'Europe, puisque c'est quand même un pays européen et qui a l'air tellement lointain dans notre imaginaire. Enfin, ça a l'air, quand on dit Hongrie, ça a l'air même d'un pays d'un autre temps, quasiment.
Oui, et c'est vrai que les gens l'imaginent très loin. Il y avait eu une sorte de petit sondage sur la manière dont on connaissait l'Europe. Et la Hongrie était le pays sur lequel les gens se plantaient le plus en l'imaginant à des heures et des heures de trajet, alors qu'il y a moins de 2 heures d'avion entre Paris et Budapest. Mais ce que je dis dans le livre, c'est finalement un pays qui est protégé du reste du monde par le fait qu'il n'a aucun intérêt. Ou alors des intérêts qui sont particuliers, enfin, par exemple le Balaton, qui est ce grand lac au cœur de la Hongrie, et apparemment un haut lieu du tourisme blanc, du tourisme raciste, en fait, où les gens viennent là parce que ça leur permet d'aller à la plage sans voir de noirs et d'arabes, ce qui n'est pas possible dans les autres pays d'Europe. Donc les quelques points d'intérêt de la Hongrie cristallisent un petit peu des problèmes, mais à part ça, Budapest est une ville absolument magnifique. Je ne dis pas du tout que le pays est absolument terne, mais c'est vrai qu'il suscite pas forcément un intérêt de la part des Français, et on le connaît mal. Et à part 56, c'est aussi un pays qui finalement a traversé la période soviétique sans trop de soubresauts. Ça a pas eu la fin tragique de la Roumanie, ça a pas eu non plus la vague de liberté de la Pologne. Enfin, c'est, voilà, on l'oublie, quoi. C'est très facile de ne jamais penser à la Hongrie quand on vit pas dedans.
et Sombre Dimanche nous permet de penser à la Hongrie, et c'est une bonne chose, même s'il y a ce brin de nostalgie qu'on évoquait avec la musique. Alice Zeniter, vous êtes à Manosque dans le cadre des correspondances. Il y a une rencontre, c'est demain à 15h, demain après-midi, qui sera animée par Maya Michalon sur la place de l'Hôtel de Ville, autour de votre livre Sombre Dimanche. Mais vous allez être en résidence ici aussi à Manosque. Comment est-ce que vous appréhendez cette période un peu particulière? Vous avez déjà effectué une résidence d'écrivain?
Non, ce sera ma première.
Et alors?
Et j'ai hâte. J'ai hâte parce que là, j'ai un prochain roman qui commence à bouillonner un peu dans ma tête et j'ai hâte de trouver le temps de me mettre à écrire. Et puis j'aime un peu cette idée d'assaise un peu étrange. Du coup, je vais venir ici pendant l'hiver. Tout le monde m'a dit « Ah, il faut pas le faire, ça va être terrible, il fait très froid, il neige,
il fait
le
moins
vent,
froid qu'en Hongrie,
le
hein,
vent va te
pas.
Manger, etc. » mais j'aime bien cette idée, donc je vais faire ça.
Rencontrer des gens?
Oui.
Des lecteurs, vous savez, on a un comité de lecture qui est, c'est lui qui vous a invité, hein, tout simplement. Et puis depuis Sombre Dimanche, depuis la parution, vous avez obtenu le prix Inter. Ça aussi, c'est une bonne chose. C'est donc une reconnaissance.
Oui, c'est une reconnaissance. C'est un prix qui change le destin d'un livre et donc finalement qui change ma vie assez rapidement, et donc c'est vraiment une aventure merveilleuse. Je crois qu'en plus du coup le livre a trouvé un lectorat un peu insoupçonné à la base, parce que mon nom et le nom de la Hongrie n'attirent pas forcément les foules dans un premier temps, et le prix Inter a permis de changer un peu cette donne-là et de donner une vie au livre que moi j'espérais pas, et je suis très 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 heureuse de ça.
Et vous allez croiser à Manosque beaucoup de vos lecteurs et lectrices, vous allez voir, vous aurez des réactions qui sont passionnantes. Je suppose qu'un écrivain est très, très attentif à ce genre de réaction directe du public. On va poser la question tout à l'heure à Yannick Hennel et Véronique Ovaldé. Vous-même.
Je sais pas. C'est quelque chose qui se fait pas tout le temps, qui n'arrive pas à chaque fois, et qui peut. C'est quelque chose qui est risqué aussi, en fait. C'est assez étrange. C'est comme si, c'est comme si vous aviez un enfant et vous vous apercevez après que cet enfant, tout le monde l'appelle par des noms différents et lui met des vêtements différents. Et cet enfant, il est pas à vous, il est aux autres sous un nom différent. Alors parfois. Parfois, c'est merveilleux, on se dit, mais en fait, c'est vous qui avez raison, c'est ce nom-là qu'il aurait fallu donner à l'enfant. Mais parfois ça marche pas bien non plus. Enfin, parfois, on rencontre des lecteurs qui ont fait du livre quelque chose d'autre, et c'est un moment magnifique, et c'est un moment très, très touchant, et on sait pas pourquoi. Et parfois, il y a une sorte de petite querelle de propriété qui se fait au-dessus du livre entre le lecteur et vous, parce que c'est pas ce qu'il y voit, c'est pas ce que vous vouliez en faire. Enfin, C'est risqué, et donc c'est magique quand ça marche, du coup.
Le partage n'est pas si facile, tout en fait. Merci beaucoup, Alice Zeniter. Je pense qu'on aura l'occasion de se voir pendant ces sombres soirées d'hiver, vous allez voir. C'est pas si sombre que cela. Et pas uniquement les dimanches, d'ailleurs. Il y a aussi les jours de la semaine. Vous restez avec nous, à vos côtés, un manosquin que nos amis à Manosque connaissent bien. Il s'agit de Marcel Cartman. Bonjour, Marcel.
Bonjour.
Médecin à la base, retraité depuis quelques années déjà, également artiste, on connaît bien le peintre, on connaît un petit peu le musicien luthier, il est également sculpteur, photographe, enfin bref, il a beaucoup de cordes à son arc, et il sort dans une toute petite maison d'édition qui s'appelle Eddy Livre, des souvenirs personnels, particuliers, dans un tout petit livre, j'allais dire sans prétention, mais très intéressant et très poignant. Moi aussi, je me souviens, c'est un clin d'œil à Pérec.
Oh, c'est pas un clin d'œil, c'est carrément une copie. Hein. qu'est-ce qui m'a plu dans Pérec? D'abord cette histoire, puis quand même Samy Fray en Avignon sur un vélo, récitant, je me souviens. Et puis dans le bouquin, je me souviens, les quatre pages blanches pour écrire chacun son je me souviens. Donc avec mon épouse, on a commencé à écrire. Et puis j'ai des petits-enfants qui m'ont posé des questions absolument délirantes, du genre, papé, toi qui es vieux, c'est vrai que les dinosaures, ils sont morts parce que j'aurais expliqué que non, c'est pas ça, j'ai vécu il y a longtemps, mais quand même pas si longtemps. Et donc j'ai commencé à leur raconter ce que j'ai vécu avant guerre, pendant la guerre, après la guerre, puis ce qui s'est appelé après la guerre d'Algérie. Et puis une de mes jolies filles, je dis jolie fille, plus belle fille, jamais, jolie fille.
C'est mieux.
M'a dit, il faut que tu écrives. Donc j'ai écrit, et puis j'ai envoyé. Et puis il y a un éditeur qui l'accepte. C'est un petit éditeur, c'est un petit livre, sans aucune prétention. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis absolument sidéré d'être dans si bonne compagnie. Alors, arriver à 81 ans pour avoir l'étiquette d'écrivain, c'est quand même un bouleversement assez fabuleux.
Je vais lire quelques extraits de votre livre, cher Marcel, en signalant quand même que ça doit être un effort particulier que d'aller de dévoiler sa vie, de dévoiler ses échecs.
Tout, non, pas du c'est, tout. Je suis un exhibitionniste frénétique. Non. Pas du tout.
Un extrait de Moi aussi je me souviens, Marcel Cartman. Je me souviens que certaines rues étaient pavées avec des pavés en bois, glissant les jours de pluie. Je me souviens que les passages pour piétons étaient vraiment des passages cloutés. Je me souviens de l'ébéniste en bas de la rue Jean-François Lépine. Nous étions fascinés par la façon dont il créait des copeaux longs et fins. Je me souviens de Marcel et de son cheval qui travaillait chez Wolbaum Déménagement. Nous étions très étonnés de voir Marcel à midi mettre la tête du cheval dans un sac de toile. Je me souviens de Margot, sa compagne. Elle devait épouser Marcel avant son départ à la guerre. On ne sait jamais. Elle faisait le ménage au cinéma et rapportait chez elle ses trouvailles. Un jour, elle a rapporté un soutien-gorge. On ne peut pas imaginer ça. Enfin, il y a des écrivains qui font de la fiction. C'est du vécu, là, Marcel.
Oui, c'est du vécu. Je jurerais pas que c'est tout le temps la vérité vraie.
Ah, donc il y a...
Je suis, toute chose égale par ailleurs, un peu comme Jean Giono, je ne mens jamais. Parfois, j'enjolive. Non, c'est vrai que... Imaginez un gamin de 7 ans qui voit un soutien-gorge énorme et qu'on a trouvé dans un cinématographe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le cinéma? Et ben, c'est passé.
Et ça peut traumatiser un enfant aussi, ce genre de choses.
Pas du tout.
Dans un sens étrange. Non. Je continue, évidemment, on arrive à la période de la guerre, période sombre. Je me souviens de la distribution des masques à gaz dans les boîtes en fer peintes en gris. Je me souviens que nous avions détricoté un pull au vert pour récupérer la laine et nous tricoter un calot d'allure vaguement militaire. Je me souviens que mon père, en septembre 39, marié, trois enfants, s'est engagé dans la Légion étrangère. Je me souviens qu'à sa première permission, il m'avait apporté une paire de patins à roulettes. Je me souviens que les soldats français portaient des bandes molletières. Je me souviens qu'ils étaient partis couper la route du fer.
À Narvik. Ils n'ont rien coupé du tout.
Ils n'ont rien coupé, effectivement.
Pas du tout.
Mais dans la tête d'un enfant, ça restait un acte héroïque de partir à la guerre. Ces boîtes en fer gris, là, c'est...
Je ne sais pas ce que les enfants pensaient à l'époque. Je sais ce que nous avons pensé. Je dis nous parce qu'on a discuté avec mes frères pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut pousser un réfugié étranger chassé de Pologne par la misère, pas du tout pour des raisons ethniques, hein. Qu'est-ce qui pousse un type comme ça à partir à la guerre? Et c'est Anne Sylvestre qui avait fait une chanson, « Mon mari est parti », où elle explique que, bien sûr, l'héroïsme, pas du tout. Il en a marre de sa vie quotidienne, routinière, et il s'en va se payer de l'héroïsme et de la camaraderie virile, pour une fois. C'est peut-être ça aussi. Et c'est peut-être ça qui est un peu... a fait descendre les héros de leur piédestal.
On va continuer à parler de piédestal, justement, la libération, moment particulier. Je me souviens de Radio Paris occupé qui parlait de repli stratégique préparé à l'avance. Je me souviens de la fête de la libération. Mon père était dans la résistance, je connaissais tous ses compagnons. Or, ce jour-là, de très nombreux porteurs de brassards FFI, sans doute brodés le jour même, ont fait leur apparition. Ces forcenés ont tendu Rachel. Je dis Rachel, mais je ne me souviens pas de son prénom. C'était une putain à boche. De temps en temps, elle nous donnait des bonbons et du chocolat suisse. Ils l'ont tendue, roulée dans le goudron et les plumes, promenée nue sur une charrette. C'était la première fois que je voyais une femme nue. J'ai pleuré au moins 2 jours. Je me souviens que le temps a passé. Ses cheveux ont repoussé. Elle a repris son commerce, mais avec les alliés. Mais ça en était terminé des friandises.
Oui, c'est étrange que cette période qui a été pénible quand même, juifs, échappé de la misère totale polonaise, avec l'étoile jaune quand même. Donc c'était une période qui est censée être abominable. Bah, pas du tout. Pas du tout. On est rentré, je dis, on est rentré en guerre à 5, on en est sorti à 6, ce qui est quand même assez ahurissant.
Avec un petit frère qui était
avec né. Avec un petit frère qui est né de père inconnu, bien sûr, parce que le père était censé être ailleurs. Et puis, c'est vrai que cette femme qui était une des rares pour laquelle on existait, on passait devant chez elle 4 fois par jour, et effectivement, des bonbons. Peu de personnes imaginent qu'il n'y avait pas de bonbons, il n'y avait pas de chocolat. Il n'y avait pas de sucre. Il y avait des jours sans alcool, des jours sans tabac, des jours sans... tout manquait. Et cette femme, on la considérait comme extrêmement gentille. Et nous, le commerce de son corps ne nous scandalisait pas. Hein. Et c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai commencé à avoir peur de la foule. Des groupes. Il suffit que dans un groupe, il y ait un pervers pour que les choses tournent de façon abominable. C'est vrai pour les militaires, c'est vrai pour les policiers, c'est vrai pour les bizutages dans n'importe quelle section. S'il y a un pervers dans le groupe, c'est une catastrophe. Et là, vraiment, ça a été horrible.
Et comme vous avez été médecin, effectivement, les bizutages en médecine sont aussi relativement
amplifiés. Oui, mais en médecine, on est déjà adulte et on a appris la résistance. Hein. On arrive à se défendre quand même, non.
Les dernières lignes de votre petit ouvrage, Marcel Cartman. Actuellement, j'ai 80 ans passés, je peins, je sculpte, je photographie, j'ai exposé un peu partout dans le monde. Je suis comme l'homme qui tombe d'un gratte-ciel et qui crie au 20e étage, jusqu'ici, tout va bien.
Jusqu'ici, tout va bien. Certains matins, j'ai honte. Oui. Comment un vieux con peut être heureux alors qu'il y a tellement de gens qui sont malheureux. Oui, c'est ça. C'est l'héritage à la fois génétique, à la fois ce que j'ai vécu. J'avais un père qui était fou furieux, mais un fou furieux d'une séduction extraordinaire. Oui, son engagement dans l'armée, la résistance, pour lequel son seul principe éducatif, c'est si tu sais les choses, tu es libre. Donc il faut apprendre. Le deuxième principe, c'était ce qu'un autre a fait, tu peux le faire. Tu le feras mal, tu mettras beaucoup de temps, tu auras des difficultés, tu vas te faire couvrir de ridicule, mais tu le feras. Donc, on a tous été comme ça. On a tous essayé, on a tous fait. Et puis c'est vrai que les rencontres aussi, enfin, Cyrulnik a beaucoup écrit là-dessus. En sixième, j'ai un prof de dessin qui en sixième nous faisait, en 43... Je ne sais pas si vous imaginez un gosse comme moi rentrer dans un collège en 43, alors que c'était interdit, hein, que tout le monde était complice de cette transgression. En sixième, le prof de dessin, c'était prof de dessin à l'époque et pas d'art plastique, nous faisait faire de la sculpture sur bois et nous peignions les décors pour la fête du collège. Les grands faisait jouer le théâtre et nous, on peignait les décors. Bon, ce sont des traces indélébiles, ça.
Et c'est ce que fait Marcel Cartman 70 ans après, d'ailleurs.
Depuis 43, je sculpte, je peins, je photographie. Oui. Et c'est vrai que à partir du moment où on a envie de faire et de montrer, et c'est vrai que c'est quand même ahurissant, j'ai été invité par le gouvernement chinois à Pékin à exposer un de mes bouts de ferraille, quand même. C'est ahurissant, ça. Et maintenant, je cause dans le poste pour parler de mon livre.
Merci, Marcel. Ça a été un grand plaisir. Et vous savez qu'on a l'habitude de on est en empathie avec les Cartman, vos frères Fred et également Henri, photographe et érudit de chaque côté. Et c'est toujours un plaisir. Et en tout cas, c'est un ouvrage. J'ai mis de côté tout ce qui concerne l'étoile jaune. Il y a un passage très étonnant sur l'étoile jaune, aussi vos souvenirs, également vos souvenirs personnels en tant que mari et père de famille également. Et c'est à voir et c'est à partager avec vos lecteurs. On rappelle qu'à la Galerie Fred, il y a une exposition actuellement, rue Kléber, des peintures et des sculptures de Marcel Cartman.
Et des photographies.
Et des photographies à la gomme bichromatée, excusez du peu. Il nous a déjà expliqué tout cela et il vous l'expliquera si vous allez visiter son exposition. Merci Marcel, à très bientôt.
Merci à vous.
Retour en plateau, vous êtes en direct sur Fréquence Mistral et nous parlons des correspondances. J'ai eu le grand plaisir d'accueillir Yannick Hennel. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Vous avez écrit Les Renards Pâles qui sort chez Gallimard. Tiens, le lapsus est intéressant. Un homme quitte son appartement et sa vie rangée, entre guillemets, pour vivre dans sa voiture entre une plante verte et une boîte à gants lumineuse. Sa compagnie En attendant Godot, le livre de Samuel Beckett qui prend une résonance particulière dans son cas, Godot, symbole magnifique que l'on retrouvera au détour des chapitres, je n'en dis pas plus. Il est le spectateur de la vie du quartier, de sa rue et de ses rythmes. Et un matin, le camion poubelle est la cause d'un drame terrible. Un SDF dormait dans un conteneur, il sera broyé vivant dans la benne à ordures. Le narrateur se prend d'amitié pour Issa et Kouré, les deux éboueurs maliens du quartier. Puis des phrases énigmatiques apparaissent sur les murs de Paris. Il croise une faune étonnante, parmi lesquelles la reine de Pologne, femme attirante et sulfureuse, un milieu interlope et en révolte, la mort après une course-poursuite d'Issa et Kouré, une cérémonie d'adieu en forme de libation et copulation effrénée, et jusqu'à une scène finale en apothéose d'un livre qui ne laisse pas indifférent. Yannick Hennel, j'avais peur, à la lecture des premières pages, de tomber sur une enquête, une de plus, sur le déclassement d'un individu contraint à vivre dans sa voiture, mais non, les renards pâles sont plus que cela.
Ah oui, bah la littérature, c'est le contraire de la sociologie. Je pense que la littérature, ça fait sauter la sociologie. La sociologie était de gauche, si je puis me permettre, pendant longtemps, et maintenant, c'est tout le contraire. C'est le langage de la société, et je pense que la littérature, c'est un langage qui détruit toutes les frontières et toutes les définitions. Donc non, c'est pas une enquête du tout. Enfin, Les Renards Pâles, c'est l'histoire d'un homme qui approfondit sa solitude et qui va se rendre compte que l'abandon dont il est la victime, entre guillemets, par ce déclassement social, justement, que cet abandon, cette solitude peut devenir une puissance. Une puissance d'abord existentielle, mais surtout politique. Il découvre que la solitude est politique. C'est un homme qui ne vote plus depuis longtemps, qui n'accorde plus aucune importance ni à la sociologie, comme vous disiez, ni à aucun discours collectif. Et qui ne savait même pas qu'un nouveau président de la République était élu le jour où il emménage dans sa voiture. Mais précisément, son errance va l'amener à retrouver au cœur de sa solitude quelque chose qui va le mener à, je ne sais pas comment dire ça, peut-être un désir de communauté. Enfin, il va découvrir qu'il y a d'autres solitudes qui sont elles-mêmes politiques et que peut-être à l'époque qu'on vit, qui est celle, entre autres, de la décomposition enfin, du politique et de l'enthousiasme politique ou de la foi, que peut-être il y a des nervures, des intervalles ou des actions ou du moins des pensées, des cérémonies un peu bizarres sont possibles.
Quand il se retrouve dans sa voiture, il dit que pour lui c'est une naissance, en fait. Parce qu'il dit, j'ai tout quitté et en fait, j'ignorais la vie que je pouvais mener. Et puis là, il touche en fait au bonheur en ouvrant sa boîte à gants avec une petite lueur bleue et en lisant trois lignes de En attendant Godot et en surveillant son papyrus qui est dans la rue aussi. C'est assez étrange. Et jusqu'au moment où survient ce drame et où tout d'un coup, il va être obligé d'ouvrir les yeux sur des choses qui se passent autour de lui.
Ouais. Oui, le mot bonheur, c'est un peu fort, là.
Oui, je vais peut-être un peu loin, c'est vrai.
Je suis très heureux, ce type. Mais en revanche, une chose est certaine, c'est que dans la solitude, il découvre quelque chose qui, en lui, est irréductible. C'était un type un peu mou, un peu distrait, qui s'est laissé porter vers une sorte de chute sociale, mais ne vit pas dans la misère pour autant, puisque sa vie est très évasive. Non, là, ce qui m'intéresse, au fond, de livre en livre et à travers ce personnage qui est une incarnation, c'est toujours le même, au fond, dans chaque livre, c'est ce point où, en chacun de nous, la société n'a pas prise. Alors, c'est un point qui, pour chacun, est différent. C'est un point où les accommodements, les complicités passives, la servitude plus ou moins volontaire ou involontaire n'existe plus. Ce point, s'il pouvait exister collectivement, ça se saurait. Ou alors, ça s'appelle l'amour, disons. Mais dans la solitude, ça existe. Et ce narrateur fait cette expérience qui est un peu extatique, disons, d'être totalement en prise avec quelque chose qui, et c'est le problème, n'est peut-être pas partageable, mais qui lui permet d'avoir une sorte d'illumination. Donc effectivement, il vit de peu en attendant Godot, qu'il a trouvé dans la boîte à gants de cette voiture, qui n'est même pas à lui, avec des cigarettes, de la vodka, et puis des promenades, au fond. Il devient promenade.
Il vit aussi de rencontres, de temps en temps, des anciens amis, des amis qu'il se fait, etc., etc. Yannick Hennel, on vous sent avant l'insurrection, qui est l'insurrection finale et que l'on sent monter, il y a des signes, des inscriptions, des masques, des groupes qui se forment. Et par-delà la mythologie Dogon, dont on a beaucoup parlé à l'occasion de la sortie de votre livre, les luttes des classes, la Commune, Marx et d'autres ponctuent votre ouvrage autant que l'ombre des Anonymous. On est là dans le 21e siècle.
Oui. Mais c'est vrai que toutes les insurrections historiques sont fondées sur une coupure, une table rase. Je pense que ce genre d'insurrection ne peut plus avoir lieu de cette même manière. Là, en tous les cas, cette insurrection improvisée qui émane des sans-papiers, des sans-abri, des sans-emploi du 20e arrondissement de Paris, elle est fondée sur quelque chose d'un peu sorcier. Le narrateur, Jean Daichel, c'est quand même un type très étrange parce qu'il ressent fortement la criminalité historique au cœur de Paris. C'est-à-dire quand il marche, il sent les cadavres occultés, les cadavres sous la terre, et notamment ceux de la Commune, puisque le gouvernement de Thiers en 1871 a exterminé les Parisiens, en tuant jusque dans le Père Lachaise les derniers communards, en les exposant sur la route, en mettant des pierres. Il a fait en sorte que chaque passant, jusqu'à aujourd'hui, piétine les derniers insurgés de Paris. Donc le livre est aussi c'est une sorte de vaudou, puisque c'est un livre qui est travaillé par les Afriques. Et donc ce vaudou réveille tous les fantômes insurrectionnels de Paris. Mais j'ai surtout voulu accorder une sorte de noblesse aux Maliens du 20e arrondissement. Certains ont des papiers, d'autres non, en les réaccordant au destin des Dogons, à cette tribu qui a fui l'islam depuis le XIIe siècle et qui s'est dotée d'une mythologie qui est sans doute l'une des plus sophistiquées au monde et dont l'un des dieux, l'une des petites divinités, c'est presque un démon, s'appelle le Renard Pâle, et c'est tout simplement une divinité anarchiste, enfin, qui se met en travers de la création, qui est contre l'homogénéisation de la société programmée par son père. Et c'est quelqu'un qui est privé de parole, qui est exilé dans le désert. C'est une sorte de sans-identité ou de sans-papier, de sans-parole avant la lettre. Et il écrit avec ses pattes sur le sable, sur des tablettes divinatoires. Donc le Renard Pâle, c'est à la fois un révolté et un prophète.
Et tout le monde, à la fin, devient un petit peu, quelque part, ce Renard Pâle. Et c'est peut-être le message de votre livre, qui est assez, assez intéressant. Yannick Hennel, votre livre, vous le savez, n'a pas fait l'unanimité. Et personnellement, j'y vois là un bon signe, d'ailleurs. Cependant, après la polémique avec Lanzmann sur Yann Karski, avant les attaques d'Aline, juste avant, il y avait eu les attaques d'Alina Reyes, notamment. Comment l'écrivain vit ces moments particuliers ? Blessé, touché, indifférent ou bagarreur ?
Oh, j'aimerais bien qu'on me foute la paix un peu, mais...
C'est pas mal comme réponse, c'est bien.
Mais bon, c'est je me dis que, je sais pas, sans doute je peux pas m'empêcher de toucher à des sujets qui ont l'air brûlants. Enfin, moi je brûle moi-même, donc ça me paraît logique. Enfin, ça va, il y a pire dans la vie.
C'est bien de déranger aussi. Aussi bien le monde de l'édition que
c'est,
les
c'est
lecteurs.
C'est pas mon but, hein, je suis pas là, je suis pas une espèce d'épouvantail ou de... non, ça me paraît, comment dire, ça fait partie du destin de ces livres que j'écris. Je dis pas que je m'y suis habitué, parce que la violence, on ne s'y habitue pas, mais je suppose que mes livres sont violents, donc je vais pas commencer à me plaindre.
En tout cas, pour ce qui est de ma propre petite personne, j'ai apprécié votre livre et je trouve que c'est intéressant de pouvoir plonger dans des univers différents et de nous ouvrir à des mondes différents, qu'ils soient africains ou parisiens. C'est pareil pour moi, on est tous sur la même terre. Et Les Renards Pâles, c'est un petit peu une leçon à ce niveau-là. Les Renards Pâles, je rappelle donc, c'est paru chez Gallimard et j'espère que c'est un roman qui est voué à un bel avenir à vos côtés. Merci encore Yannick Hennel. Vous restez avec nous, hein, parce que je sais que vous appréciez le personnage qui est à côté de nous, c'est Véronique Ovaldé. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir ici même. C'est la première fois que je vous accueille. Je suis ravi de vous accueillir pour La Grâce des Brigands. Alors, c'est le dernier roman que vous publiez aux éditions de L'Olivier. L'histoire, c'est l'histoire de Maria Christina Vaatonen, qui grandit dans une famille pas vraiment verni au Canada, c'est peu de le dire, et deviendra un écrivain à succès en Californie, très exactement à Los Angeles. Elle y croise Raphaël Claramunt, un impresario trouble qui la tient sous sa coupe. Exploitée artistiquement, financièrement et sexuellement, Maria Christina porte un regard désabusé sur son enfance et sa vie actuelle. L'écriture d'un livre est faite de ruses et d'esquives, dit-elle. Dites-vous. C'est une vision lucide qui conduit forcément aux professionnels de l'édition. Je pense à Rebecca Stein dans votre livre, archétype d'une femme d'affaires qui fait sa vie avec les mots des autres et un sens aigu de la réussite sociale. La Grâce des Brigands, c'est un livre sur l'écriture ?
Je ne sais pas si c'est un livre sur l'écriture, c'est sur l'écriture sans doute et plein d'autres choses. Mais c'est drôle ce que vous dites de Maria Christina Vaatonen, du personnage qui serait désabusé ou... Ce qui n'est pas du tout le cas, il me semble. Elle n'est pas désabusée, elle n'est pas exploitée dans son texte. Elle est... Oui, elle ne subit pas. Hein. Elle ne subit pas ce qui lui arrive. Elle a choisi de devenir écrivain. Elle a choisi de s'émanciper, de s'affranchir d'une famille asphyxiante, comme je le dis dans le livre. Et elle va faire son chemin. Et je pense qu'elle n'est pas... Ce n'est pas un personnage très malheureux. Elle va subir enfin, elle va rencontrer des personnes parfois pas très accommodantes, pas très amicales, mais comme nous tous. Hein. Et il va lui arriver des accidents, il va lui arriver des drames qui vont surgir, mais il va y avoir aussi beaucoup de sérénité chez ce personnage. Donc pour moi, il n'est pas du tout désabusé. Elle a une espèce de elle choisit sa solitude. Justement, c'est un personnage qui choisit sa solitude comme le personnage de Yannick. Donc voilà, c'était comme ça que je la voyais. Mais alors, la question, c'était pas ça du tout. La question, c'était est-ce que c'était un livre sur l'écriture ?
Oui.
Mais ça me faisait réfléchir l'histoire de ça me troublait beaucoup ce mot de désabusé. Oui, c'est sans doute ça. J'imagine il y a de ça dans ce roman. Je voulais raconter une histoire. Je voulais faire un récit. J'écris des récits. J'écris de la fiction. Depuis toujours, et c'est ça qui m'intéresse. Et j'écris des fictions, je me rends compte très souvent, qui tournent autour de l'affranchissement, de la façon dont on se libère des entraves. Je donne l'occasion à des personnages de se libérer, et parfois ils ne prennent pas les occasions que je leur offre. Mais du coup, ce qui m'intéressait ici, c'était la littérature, évidemment, l'écriture, la lecture, les livres, puisque je trouvais ça tout à coup un peu dingue que j'avais jamais été jusqu'à parler d'un personnage écrivain ou personnage qui lit ou qui écrit, alors que c'est ça, moi, qui m'a sauvée. C'est ça qui m'a qui m'a libérée. Et du coup voilà, j'en avais jamais parlé et c'était fondamental pour moi sa façon de grandir de s'affranchir à ce personnage-là, à cet écrivain. c'était très important pour moi d'en parler, de raconter l'histoire d'une femme écrivain en plus, parce qu'en fait, il y a beaucoup de romans sur les écrivains, mais c'est toujours des hommes, étrangement, très souvent. Et j'avais aussi envie de parler de ce que c'est qu'être un écrivain femme, qui est une catégorie très particulière des écrivains. Il y a Alice que ça fait rire, mais il faudrait que j'en parle avec Alice pour voir si elle le vit comme moi. Mais quand on est une femme écrivain, c'est particulier parce qu'on est très souvent sollicité sur des questions d'écriture et féminité, l'écriture féminine. On est prise en photo avec toutes les femmes de la rentrée, ce genre de choses. Alors je trouve ça troublant parce que quand on est un homme écrivain, on n'est pas du tout dans ce genre de situation. Donc c'est comme si on était dans une espèce de sous-catégorie d'écrivain. Alors, c'est pas du tout. Ce qui m'intéresse là, c'est pas du tout de remettre tes pendules à l'heure ou ce genre de choses. Vraiment, je ferais pas un truc pareil. Mais ce qui m'intéressait, c'est pourquoi et comment elle le vit. Par exemple, ce personnage-là, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle aspire à être un écrivain mâle. Et je connais beaucoup d'écrivains femmes qui aspirent à être des écrivains mâles. Donc, je trouve que c'est troublant, quand même, comme situation. Je sais pas si je suis très claire, je suis pas très en forme aujourd'hui.
Non, c'est intéressant, mais on va pas aller sur ce terrain qui est un peu particulier, où il nous faudra l'éclairage de plusieurs psychanalystes. Donc, on va revenir à votre livre. Il y a une fascination un petit peu spécial sur les années 70 et sur la Californie, sur le mouvement hippie, sur cette période d'émergence et créatrice et de mode d'une culture en fait différente.
Une fascination, non, peut-être pas. C'est simplement que j'ai beaucoup lu de la littérature américaine des années 70. C'est une espèce un fondement de ma mythologie personnelle, quoi. La littérature américaine des années 70, le cinéma américain des années 70, la musique de ces années-là, les photographes américains de cette période. Donc c'est aussi un territoire très romanesque, c'est une période en effet d'insurrection, c'est une période libertaire. Mais évidemment, je ne fais pas du tout un document sur les années 70 en Californie, donc il ne serait pas venu à l'esprit de placer ce roman de façon plus précise encore, c'est-à-dire de mettre des événements politiques, des événements sociaux, des choses comme ça dans le roman. Ce qui m'intéressait, c'était la trajectoire de ce personnage dans ce contexte-là, qui est un contexte très intéressant, évidemment, puisque finalement, le fond du roman, pour moi, c'est toujours celui-là, c'est vraiment cette émancipation dont je parlais. Donc, faire venir un personnage d'un village ménonite et d'une famille totalement cadenassée, et puis le placer ce personnage-là dans un contexte aussi libre et aussi déstabilisant que la Californie, l'année 70, c'était passionnant.
C'est l'Eldorado.
Bah, elle le vit un peu comme ça, elle le vit comme un Eldorado, c'est normal. Hein. Si vous veniez d'un petit village épouvantable comme celui d'où elle vient, une espèce de petit village morne, sans aucun intérêt, un peu comme la, la Hongrie d'Alice, qui est au milieu des montagnes, et où il fait quand même glacial la majorité de l'année, et où les gens ne sont pas très très accueillants. Et évidemment, si après vous allez en Californie, ça ressemble à un Eldorado quand même.
Véronique Ovalde, hier après-midi, vous avez lu votre texte dans le cadre des Correspondances de Manosque, un festival que vous connaissez bien. C'est un exercice qui vous convient, qui vous comble?
Ah oui, j'adore ça en fait, c'est ce que je préfère faire. C'est que je n'aime pas tellement parler en fait de mes livres, comme on peut le voir là. J'ai le commentaire parasite beaucoup, je trouve, finalement,
vous mettez
la
tout
lecture.
Dans votre écriture, en fait, donc pas besoin de
non,
commenter.
Mais je dis ça, c'est un peu une boutade. Je sais qu'il faut. Ce qui est intéressant d'ailleurs, le fait de parler de nos livres, je ne sais pas si Alice et Yannick le vivent comme moi, mais le fait de parler de nos livres, ça oblige aussi à prendre la bonne distance par rapport au texte qu'on vient d'écrire. J'ai l'impression que quand on vient de finir un roman, on n'a rien à dire dessus parce que tout est là. Et après, d'y réfléchir nous permet aussi de savoir ce qu'on a vraiment voulu faire. Je pense que c'est mieux de savoir ce qu'on a voulu faire après plutôt qu'avant. D'avoir un espèce de projet d'écriture, ça me paraît très très dangereux, les projets d'écriture, moi. Donc je trouve ça intéressant pour ces raisons-là. Mais je préfère un milliard de fois faire des lectures de mes textes, des lectures musicales. J'aime bien faire des lectures musicales parce que ça veut dire travailler avec quelqu'un. Et ça, ça m'intéresse beaucoup parce que finalement, l'écriture, on est quand même dans une solitude absolue. Enfin, moi, je trouve ça toujours fou qu'on choisisse tous là de passer des heures et des heures, des milliers d'heures à écrire un livre, des milliers d'heures dans la solitude, alors qu'on pourrait faire des choses beaucoup plus excitantes, je pense. Ce travail de dans la solitude, j'ai besoin à un moment donné de me confronter au travail de quelqu'un d'autre. Donc travailler avec un musicien, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup répéter avec le musicien, qu'on mette en place un dispositif pour faire une sorte de spectacle, en fait. Et la lecture, c'est très agréable parce qu'il y a juste le texte et moi, en fait. On est ensemble, j'ai juste le texte à donner. Et en général, le public est réceptif à ce genre de spectacle. Donc c'est un moment, c'est un moment assez miraculeux.
Avec un soutien hier subtil et élégant de Bertrand Soulier au piano, qui arrivait à porter votre texte très, très subtilement et en même temps à s'effacer quand il fallait devant les mots. Ça doit être un bonheur aussi pour vous de rencontrer des musiciens comme Bertrand.
Oui, et puis alors à chaque fois quand je travaille avec un musicien, c'est parce que ça m'intéresse son travail. En général, cette personne m'intéresse, mais c'est aussi parce que je me sens beaucoup de complicité avec le musicien en question. En l'occurrence, Bertrand, on se connaît depuis toujours. On était à l'école ensemble, dans un endroit sinistre, et on était très proches. Et moi, j'écrivais déjà, et lui, il faisait que du piano tout le temps. Et en fait, il y avait cette espèce de pacte d'enfant, se disant que un jour, on ferait quelque chose ensemble. Et on s'est perdu de vue pendant des années. Alors on s'est croisés un jour, on s'est retrouvés dans une librairie. Et je crois qu'il était mort parce qu'il avait une vie un peu compliquée. Donc je pensais qu'il était mort depuis longtemps. Et en fait, il était vivant. Et il était... Donc on a renoué et on s'est dit, ben voilà, la vie nous a permis de nous retrouver. Ben, on va faire quelque chose ensemble.
On ne dira jamais assez de bien des librairies.
Absolument, ce sont des lieux... fondamentaux.
Yannick Hennel, un exercice comme celui auquel s'est frotté hier Véronique Ovaldé, la lecture de vos textes, ça vous tente, ça vous...
Oui, j'adorerais, je le fais très rarement. Je me dis que c'est très risqué, mais que peut-être, je ne sais pas pour toi Véronique, mais c'est comme si ça... J'imagine qu'on remet en jeu l'énergie de solitude de l'écriture elle-même, qu'on s'expose, qu'on s'offre au fond. Et que peut-être, émotionnellement, ça doit être presque à la hauteur de ce qui s'est passé quand on écrit.
Oui, c'est très intense, c'est ça, il y a une intensité particulière.
J'ai assez soif de ça, mais peut-être que je lis comme un pied, je ne sais pas. Donc ça,
faudra essayer, et puis on vous dira après. Non, c'est un exercice qui ne doit pas être évident, effectivement, pour quelqu'un qui a écrit, parce qu'il faut de la diction, il faut de la voix, il faut respirer, il faut faire tout un travail de comédien, d'interprétation, et ce n'est pas tout à fait le même métier. Un plombier n'est pas un garagiste, par exemple. Donc bon, il peut peut-être changer une roue, mais c'est tout. Et puis le garagiste, s'il change les tuyaux, peut-être qu'il peut se tromper aussi. Donc ça, il faut faire très attention. En tout cas, c'était une très belle lecture hier, Véronique, avec une complicité de Bertrand Soulier. Bertrand qui disait après le concert, oh moi je fais juste les pouettes-pouettes au piano. Je l'ai rassuré, ces pouettes-pouettes étaient très bien et c'était bien plus que des pouettes-pouettes puisque c'était, on sentait la complicité. Et là on a une explication. Donc vous répétez depuis le CE2, c'est ça?
Ouais, à peu près.
Quasiment. Donc le spectacle.
On est super au point.
Le spectacle est arrivé à point nommé pendant les correspondances de Manosque. On arrive à la fin de notre émission. On va vous remercier tous les quatre d'avoir été mes invités pour cette émission. Vous avez une rencontre. Non, Véronique, vous n'avez plus rien.
J'ai une sieste littéraire.
Une sieste littéraire.
Ouais. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit.
Je sais, vous allez adorer. Et parfait. Le public aussi, donc tout à l'heure à 15h avec Bastien Lallemand et ses comparses, sieste littéraire où Véronique Ovaldé va intervenir. Vous avez déjà choisi un texte, vous avez...
Oui, j'ai déjà deux, trois petites choses
en
tête.
Très bien, parfait. Yannick, vous avez une actualité, vous, dans le cadre des correspondances?
Oui, tout à l'heure, là, à 15h, un dialogue avec Philippe Vassé qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « La Conjuration ».
Et qui est sur une place de Manosque.
Place Marcel Pagnol.
Place Marcel Pagnol, place bien nommée à Manosque. Et on vous reverra évidemment régulièrement aux correspondances. Pour moi, ça a été un honneur et un bonheur de vous recevoir. Alice Zénitaire également, on vous retrouve dimanche à 15h, c'est ça ?
Place de l'Hôtel de Ville.
Et puis pendant votre résidence à Manosque, sur la résidence pendant les correspondances, maintenant vous savez où est la radio, on vous attend, n'hésitez pas. Quant à Marcel Cartman, il sait très bien où on se voit régulièrement. Ce fut aussi pour moi une belle découverte, Marcel, de vous avoir comme invité dans cet aréopage particulier.
Imaginez pour moi, ça y est, je suis avec les grands maintenant.
Merci à tous.